Je suis avec Sarah Forestier. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Dans le magnifique foyer du théâtre de Namur, pendant le festival du film francophone de Namur, où votre film M est proposé au public, au festival et à la presse. Alors M, ça a été une très longue gestation. Est-ce qu'on peut en parler? Pourquoi tant d'années pour ce film?
Il faut lui demander à lui. Il faut lui demander à mon film. Pour, à mon bébé, pourquoi il a mis autant de temps à sortir? Non, je sais pas. Enfin, je sais en fait. Je dis ça, mais je sais pas si c'est très intéressant. C'est juste que j'ai eu l'idée il y a 15 ans du film. Et puis en fait, j'avais 15 ans à l'époque, j'étais une gamine. Et donc le temps que je mûrisse pour que le film soit mûr aussi, on a grandi ensemble, quoi. Et donc voilà, il y a 15 ans, j'ai vécu une histoire d'amour avec... on s'en fout un peu, mais à la base, c'était une histoire vraie. J'ai été en couple avec un mec qui savait pas lire et il me l'avait caché toute la relation.
Et puis, vous aviez des soupçons?
Non, pas du tout. Justement, c'est ça, moi, qui m'a frappée. C'est que c'était un mec tellement sûr de lui, beau gosse, plus âgé que moi, impressionnant, sensuel et... Il avait un ascendant très fort sur moi et imaginer qu'un mec comme ça puisse avoir un complexe, ça a été très surprenant. Et tout de suite, je me suis dit que ça serait une super idée de film, un mec qui cache. Et en fait, profondément, je pense que j'étais vraiment touchée par l'idée de la honte qui me renvoyait au rapport de l'amour, enfin l'estime de soi, l'estime de soi-même, par rapport à soi-même, qu'est-ce qu'on pense de nous-mêmes. Et puis après, plus profondément, en fait, j'avais envie de parler d'amour et d'intimité, de rapport à l'autre, et comment, en fait, quand on est avec quelqu'un d'autre et qu'on cherche une putain d'intimité, quand on cherche une vraie grande histoire d'amour et qu'on est dedans, enfin, et qu'on la vit, comment, en fait, c'est violent aussi, l'intimité. C'est-à-dire que c'est très, très fort, très vivifiant. On se sent plus vivant, plus animal que... dans la vie de tous les jours, dans une société de consommation qui nous anesthésie totalement. Même les sensations, on n'a plus de sensations. On mange des animaux, on ne voit même pas mourir, on mange des aliments, ils n'ont même plus de goût. On est complètement déconnecté de nos pulsions animales, de vie ou de mort, mais il y a un truc comme ça. Et en fait, quand on est dans une histoire d'amour, là, ça nous rend vivants à nouveau, très 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 vivants. Et en fait, on cherche ça, et en même temps, quand on est dans une histoire d'amour, il y a cette liberté qui est en fait aussi mise en danger par le fait que quand on est très amoureux et qu'on vit une grande intimité, nos névroses profondes ressortent. Et elles peuvent détruire aussi le couple. La peur de l'abandon, il y a des trucs comme ça qui ressortent chez nous qui sont très très violents. Et on se découvre des névroses. Et c'est très particulier à gérer, je trouve. Voilà, il y a beaucoup d'histoires d'amour et il y a très peu d'histoires de couple réussies. Il y a beaucoup d'échecs dans l'histoire amoureuse. Et ça, c'était un sujet qui me fascinait. Voilà.
Et vous interprétez Lila, donc vous êtes à la fois devant et derrière la caméra. Quelle a été la difficulté pour pouvoir diriger les autres et pouvoir vous diriger vous-même? C'est quand même un exercice particulier.
Ouais, c'était vraiment hyper dur. C'était de la torture.
C'est tout?
Ouais, après, j'ai pas... Qu'est-ce que je vous dis? Je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait, voilà.
Et est-ce que c'était difficile aussi d'être à tous les niveaux de cette création, scénariste, dialoguiste, interprète, réalisatrice?
J'avais pas le choix, de toute façon, parce que de toute façon, je parle d'intimité en fait dans mon film, donc chercher une grande intimité. Et il faut être. Pour parler aux autres intimement, il faut parler de soi intimement, je pense. Et voilà, j'avais besoin de faire les choses comme ça, mais moi les démarches d'artistes qui me touchent quand Proust il parle de lui, de sa mère, de le rapport à sa mère, du rapport à sa mère, de son rapport à la nature, de la recherche des sensations. Moi les grands artistes, c'est ceux qui ont cette démarche-là, en fait, cette quête-là. Un Van Gogh quand il fait des autoportraits. Moi c'est ce qui me frappe le plus chez Van Gogh, c'est ses autoportraits, chez Rembrandt aussi. Et c'est cette quête comme ça de véracité qui passe par un. Une quête hyper intime en parlant de soi, ça me plaisait.
Et votre personnage, donc Lila, est quelqu'un qui, bon, on va pas tout dévoiler du film, on va laisser les festivaliers et les spectateurs découvrir, mais qui a trouvé une sorte d'exutoire à son problème de communication par les mots qu'elle maîtrise très bien.
Oui, donc Lila, elle bégaye, elle fille, voilà, qui bégaye, mais voilà, à côté de ça, ça n'empêche qu'en fait, elle a un rapport aux mots où elle se bagarre, en fait. Elle est à la quête, elle est dans une quête du mot juste. Elle essaye de... En fait, son moyen de communiquer avec les autres ou avec le monde, c'est d'essayer de trouver le mot juste pour le décrire. En fait, voilà.
Et vous avez choisi Redouane Harjan pour interpréter Mo. Mmh. Donc, cet homme qu'elle va rencontrer, ce sera passionnel. Le choix de Redouane était déjà à l'écriture ? Il est venu à quel moment ?
Ah non, pas du tout. Redouane, je ne le connaissais pas. J'ai casté 600 mecs hein, avant de rencontrer Redouane. Et puis, en fait, ça s'est fait par... Il était très, très différent. Déjà, il avait 20 kilos de plus quand je l'ai rencontré. Je lui ai fait perdre 20 kilos pour le film. Il était très, très différent physiquement de ce que j'imaginais. Et même sa personnalité, très, très différente du personnage. Mais dans ses yeux, j'ai décelé une noirceur et une autodestruction qui m'a touchée, en fait. Qui me parlait très, très fort. Pour le personnage et sans doute moi aussi personnellement, et c'est sur ça que j'ai en fait flashé. Moi je flash sur les détails en fait pour le casting chez les gens.
Et à propos de casting, votre père dans le film c'est Jean-Pierre Léo.
Ouais. Bah, Jean-Pierre c'est ses cheveux noirs qui m'ont au départ.
Un regard aussi.
Mais au départ c'est ses cheveux noirs. Je l'ai vu sur photo, j'ai dit putain c'est ça en fait le père. C'est un amoureux déchiré qui a perdu sa femme et je voulais qu'il reste un amoureux. Et le fait qu'il ait les cheveux longs, noirs, c'est très très beau, ça me racontait ça. Et donc après, je l'ai rencontré, puis quand on s'est rencontré, j'ai vu justement ouais, dans son œil, dans ses yeux, sa folie, son enfance, sa part d'enfance aussi. Et il avait quelque chose d'hyper pur aussi, comme les personnages du film. Et une grande dureté aussi à certains. Moi, je l'ai amené beaucoup vers de la dureté aussi, ça. Il est très très dur avec sa fille, mais ça me plaisait. Et que puisse cohabiter une grande dureté, et en même temps on sent que c'est... Il est fou, en fait, il est passé de l'autre côté, donc il est pas dur par pure méchanceté, quoi. Et ça, c'est de faire cohabiter une part d'enfance chez lui, une innocence incroyable quand il est avec la petite fille, il est magnifique. Et en même temps, une grande dureté avec sa fille, une exigence extrême, c'est j'aime bien.
Quel est votre rapport à la création, quelle qu'elle soit hein, je pense là-bas évidemment au cinéma, à l'écriture, peut-être le théâtre. Quel est ce rapport en tant que... On se sent démiurge.
On se sent quoi?
Démiurge.
C'est
créateur.
Créateur au sens même... Pour moi, c'est un acte désespéré hein, de faire de l'art. Il vaut mieux vivre la vraie vie. Mmh. Mais quand on le fait, bon, bah, autant que ça soit fait, comment dire... Il y a les grands artistes, ceux qui cherchent des choses vraies. Mais c'est des quêtes désespérées. Vaut mieux vivre la vraie vie que de faire de l'art.
Mais c'est pas aussi une quête d'absolu ?
Mais parce qu'on cherche quelque chose qui n'existe pas et que quand on a la nature et la vraie vie pour soi, on est apaisé, on n'est plus dans une quête de fantasme. Quand on est dans la vraie vie. La vraie vie, ce qui est beau, c'est qu'elle est anecdotique et qu'elle est... La vie est simple et anecdotique et qu'il n'y a pas le souci des grandes choses. Dans la vie. C'est ça qui est bien.
Et vous êtes tombée très tôt dans le métier de comédienne. Être comédien, c'est aussi endosser des personnalités qui ne sont pas de la nôtre. Ouais. Donc c'est pas forcément la vraie vie.
Absolument. C'est pour ça que c'est mauvais pour la santé que je vais arrêter.
Vous voulez arrêter ?
Oui, bien sûr.
Arrêter aussi la réalisation, la création ?
Oui, peut-être je ferai joujou de film, j'aimerais bien. Et après, je me souhaite d'arrêter.
Mais pourtant, vous avez très rapidement été reconnu par vos pères avec...
Je veux vivre la vraie vie.
Et la reconnaissance des Césars, c'était comment ?
C'était... La vie en société, pour moi, anesthésie tellement les êtres humains. Je suis fascinée par les peuples autochtones, en fait. Je trouve qu'ils ont une chance inouïe, même si la vie est très dure physiquement, etc. Ils sont quand même connectés à leur animalité, plus que nous, et... Je me demande, est-ce que le progrès réellement, est-ce que le progrès c'est une fin en soi ? Je suis pas sûre.
Disons, on a parlé de progrès dans l'immédiateté, on n'a pas vu les conséquences négatives de l'industrialisation.
C'est-à-dire que. C'est sûr, hein, le confort c'est agréable, mais ça peut être aussi. Il y a des questions à se poser quand on voit les animaux, comment ils sont, est-ce qu'ils sont pas plus. Je parle même pas des questions du bonheur ou d'être heureux, parce que ça, c'est des questions justement presque erronées, parce que c'est une question de fantasme, c'est des notions qui sont peut-être fausses et parfois on crée des mots qui sont mensongers parce que le mot en lui-même n'existe, ce qu'il représente n'existe pas, c'est un concept inventé par les êtres humains. Moi je pense qu'au-delà de parler de ça, il faut parler juste d'être vivant. Et les animaux, je pense, sont plus vivants que les êtres humains.
Et aussi tout ce qui se passe, on voit tous les scandales actuellement par rapport aux chaînes alimentaires et comment on traite les animaux dans les abattoirs. Enfin, on a atteint.
Oui, absolument. Mais quand on voit ce qu'on fait aux arbres, même dans des villes, vous voyez les villes, la gueule des arbres à Paris, c'est une blague. Ils ont l'air, ils sont gris, les arbres. Bah, nous, on est gris à l'intérieur. Hein. Même, on a des sales gueules, mais en plus de ça, à l'intérieur, on a. Donc, je sais pas. Je pense qu'il faut s'enfuir un peu des sociétés, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, mais je suis pas sûre que ce soit très très bon pour la santé, moi.
Et maintenant, vous avez une image publique qui est reconnue par justement les spectateurs. Ouais. Est-ce que vous avez envie de militer par rapport à ça, pour ces causes ?
J'ai envie de vivre ma vie, moi. J'ai envie de militer pour moi. Enfin, militer pour moi, même pas. J'ai pas envie de militer pour moi. J'ai envie de vivre ma vie. J'ai envie de m'enfuir, en fait.
Voilà. J'ai lu. Encore une question, quand même. Vous avez un look scandinave et j'ai vu que vous étiez née à Copenhague.
Ouais, j'ai un look scandinave ?
Oui.
C'est
quoi ? Les yeux bleus.
Ah, bon, le visage ? Voilà. On me dit souvent l'Europe de l'Est, ouais. Mais apparemment, j'ai du sang d'Europe
danois
de l'Est.
Ah.
Non, pas danois, d'Europe de l'Est.
Et comment se fait-il que vous soyez née à Copenhague ?
Bon, ça n'a rien à voir. Mes parents, ils ont voyagé un peu.
Vadrouillé ?
Quand j'étais jeune. Mais voilà, j'ai du sang apparemment ashkénaz. Ah. Voilà.
Sans le savoir, vous savez pas précisément ?
Non, c'est pas trop, parce qu'en fait, ça a été caché pendant la guerre. Mmh. Ils ont changé de nom dans ma famille, donc voilà. Je suis juive !
Foretensky.
Ouais, je sais pas, Saranouchka.
Et ça vous attire, justement, bah, puisque vous voulez arrêter...
Oui, de connaître mes racines, ouais, mmh. J'ai envie de connaître un peu mieux. Il semblerait peut-être aussi que j'ai du sang gitan, j'aimerais bien aller fouiller un peu, regarder.
Ça expliquerait un peu le tempérament ?
Je sais pas, j'ai envie d'aller chercher ce qu'il y a dans mon sang, quoi. J'aimerais bien voir s'il y a une terre qui est la mienne, quoi, avec mes ancêtres et tout, ça serait chambé.
D'où la culture de mots dans votre film ?
Quelle culture ?
Culture. La culture, un peu, on voit que la mère, elle, même si...
Bah, c'est important, les racines. Mmh. C'est important, on nous fait croire, on est dans une société... Ouais, la société de consommation, c'est fait pour individualiser les gens. On met tout sur l'ego comme si la personnalité de la personne était ce qu'il y avait de plus important pour que les gens consomment, en fait. Et on parle d'un universalisme, une forme de mondialisation comme ça, où tout le monde peut être ce qu'il veut, etc. Et comme si les racines, ça valait rien. Non, je suis pas d'accord, en fait, c'est n'importe quoi. Les racines, ça vaut énormément. Le sens que tu as à l'intérieur de toi, c'est ce qui te constitue. Et je sais pas, on va créer des générations d'orphelins aussi, en fait, de cette manière-là.
Alors, vite, avant de vous quitter, je vous souhaite de guérir de ce rhume. Et surtout, quels sont vos projets, des projets très personnels, si j'ai bien compris ?
La fuite. Attendez. La fuite !
Je peux vous demander une petite dédicace pour ma fille ? Avant de fuir.
C'est quoi ?
C'est pour ma fille.
D'accord. Votre fille ?
Yes.
C'est quoi ?
Attendez.